La Torah expliquée. Un regard juif sur la Bible. Une émission proposée par le magazine Le Berger d'Israël.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Torah expliquée. Je vous en rappelle rapidement le principe. Benjamin Wagner, journaliste protestant, pose des questions sur la Torah auxquelles répond Guy Attia, directeur du Berger d'Israël.
Bonjour Guy.
Bonjour.
Alors ça fait déjà plusieurs émissions maintenant que nous explorons les chapitres de l'Exode. Donc certains sont connus, d'autres beaucoup moins. Et on découvre aussi un Moïse conducteur d'Israël, empreint d'une grande humilité et même parfois d'une certaine faiblesse. Et ce qui est remarquable, c'est la manière dont il préfigure le Messie à venir. On a déjà pu s'en rendre compte lors des premiers épisodes suivant la sortie d'Égypte. Où est-ce que vous allez nous emmener aujourd'hui ?
Alors en fait, nous restons dans l'aventure épique du peuple d'Israël et de Moïse, peu de temps avant le drame du veau d'or. Et il apparaît clairement une intention qui dépasse le récit lui-même. Moïse incarne l'archétype du Mashiach, du Messie, qui est annoncé depuis les premières pages de Bereshit, donc du livre de la Genèse. Le caractère prophétique du récit transcende l'aventure humaine qui nous est rapportée dans notre texte. Les commentateurs juifs, comme d'ailleurs les commentateurs chrétiens, comprennent bien qu'ici, il y a plus que l'image marquante du défi relevé par le grand chef d'Israël qu'a été Moïse. Les échecs du peuple, comme les ordonnances singulières transmises par Moïse, se croisent dans le texte et rappellent sans cesse l'éthique de Dieu, la faillite du peuple et le plan prophétique du salut de Dieu pour Israël et même au-delà pour toute l'humanité.
Alors justement, où en est le peuple aujourd'hui ? Est-ce qu'il a un petit peu progressé ou est-ce qu'il stagne, si je puis dire ça comme ça, toujours quelque part dans le désert ?
En fait, au stade où nous en sommes, une brève piqûre de rappel s'impose afin de conserver en mémoire la chronologie des faits et l'état d'esprit des Israélites au moment où se déroule l'épisode malheureux du veau d'or. Alors comme on a déjà pu le constater, le livre de Shemot, donc le livre de l'Exode, ne suit pas une chronologie exacte et un rythme linéaire, si bien que notre récit se situe en fait chronologiquement à la suite du moment où le peuple reçoit la vision fantastique de Dieu sur la montagne d'Horeb, au chapitre 19 et 20, soit quand même une douzaine de chapitres auparavant. Le peuple sorti d'Égypte temporise un peu dans le désert avant de connaître la vision grandiose du Seigneur sur la montagne de Dieu. Littéralement, le peuple voit la parole divine dans le ciel au milieu de la nuée. Cependant, face à cette vision terrifiante, le peuple est dans la crainte et demande à Moshé de servir d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Ce peuple ne peut supporter la vue de Dieu et réclame à Moshé qu'il reçoive la parole divine et en fait la lui transmette ensuite. Aussitôt après, acceptant l'alliance divine de devenir le peuple de Dieu, Moshé monte enfin sur la montagne et disparaît en quelque sorte à la vue du peuple au milieu d'un nuage. Et les Israélites se retrouvent brusquement d'une situation contemplative à une période un peu plus statique, si on peut dire, à attendre que tout simplement Moshé redescende de la montagne sainte.
Alors justement, ça pourrait être là, à ce moment-là, on est un peu comme dans le scénario d'un film, quand le peuple attend sans rien faire que des problèmes peuvent intervenir.
Eh oui, tout à fait. Les lois énumérées dans les chapitres qui précèdent l'épisode du veau d'or ont sans doute été données à Moshé sur la montagne durant les 40 jours qu'il y a passé. Alors il ne faut pas imaginer que les 10 commandements soient les seules paroles reçues par Moïse durant son séjour sur la montagne. Mais lisons à présent notre texte en Exode chapitre 30 à partir du verset 11. Le Seigneur dit à Moïse, « Lorsque tu feras le dénombrement des Israélites pour les recenser, chacun d'eux donnera au Seigneur une rançon pour lui-même, lors du recensement. Ainsi, lors de ce recensement, il n'y aura pas de fléau parmi eux. Voici ce que donneront tous ceux qui passeront au recensement. Un demi-sicle, selon le sicle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Ce sera un prélèvement d'un demi-sicle pour le Seigneur. Quiconque passera au recensement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, donnera le prélèvement du Seigneur. Le riche ne paiera pas plus, le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-sicle pour le prélèvement du Seigneur, comme rançon pour eux-mêmes. Tu recevras des Israélites l'argent de la rançon et tu l'emploieras au service de la tente de la rencontre, ce sera une évocation des Israélites devant le Seigneur, une rançon pour eux-mêmes. Alors, ce recensement dont il est question ici ne précède pas, mais il fait en réalité suite à l'épisode qui va suivre avec l'affaire du veau d'or. Relevons toutefois qu'il s'agit là d'une ordonnance qui doit se répéter tous les ans. Si à un moment donné les Israélites se montrent particulièrement généreux et consacrés pour faire toutes sortes d'offrandes volontaires en vue de la construction du tabernacle, ça arrivera un peu plus tard, il y a ici là une ordonnance toute singulière où l'offrande d'un demi-shekel est rendue obligatoire. Il s'agit donc d'abord d'une offrande répétitive chaque année au moment du recensement de la population selon des règles très particulières. Ensuite, les Israélites devaient payer une sorte de tribut, une rançon pour leur personne. Le pauvre comme le riche payaient le même montant, assez faible en l'occurrence, et personne n'en était exempté. Dans notre texte, il s'agit en particulier de permettre la confection du tabernacle et par la suite de son entretien. Mais il faut ajouter que cette obligation est incontournable et même passible du jugement divin en cas d'infraction à la règle. Il est évident qu'il y a ici plus qu'une simple taxe pour permettre le fonctionnement du tabernacle. L'idée même que cette offrande soit obligatoire, d'ailleurs sous peine de mort, et qu'elle soit mentionnée là à plusieurs reprises comme une rançon, est de nature à rappeler aux Israélites qu'ils appartiennent à Dieu en vertu d'une transaction. Certaines versions précisent même que cette offrande obligatoire est comme un moyen d'expiation. La valeur assez faible de cette rançon n'est pas ce qui est le plus important. Il convient surtout de mentionner que cette rançon est la même pour tout le monde et qu'il n'y a personne qui en soit exempté.
Alors ici, l'idée de recenser la population n'apparaît pas forcément comme une faute. Pourtant, je me souviens que David, à la fin de son règne, avait opéré un recensement du peuple que Dieu avait condamné sévèrement. Alors on pourrait se dire qu'il y a une espèce de contradiction ici avec l'histoire de David.
En effet, et si on lit rapidement les textes, on pourrait le penser, mais il ne s'agit pas là de la même chose, ni du même contexte d'ailleurs. À plusieurs reprises, il est formulé l'interdiction d'effectuer un recensement du peuple, et David sera d'ailleurs puni pour l'avoir fait, on trouve ça dans 2 Samuel chapitre 24. Il s'agit toutefois d'un dénombrement démographique, évoquant l'expression d'une grandeur et une gloire qui ne reviennent pas à Dieu. Rien à voir avec les recherches statistiques en vue de prévoir les infrastructures ou des besoins de toute nature, comme d'ailleurs on le fait aujourd'hui. Formellement, le premier recensement aura lieu à la sortie d'Égypte et un second juste avant l'entrée en Canaan. Et on comprend d'ailleurs le sens de ce dénombrement quand on constate que le peuple n'a pas diminué dans le désert et qu'au contraire, il a été maintenu dans les quasi mêmes proportions qu'auparavant. On a un texte toutefois assez curieux au début du livre de Bamidbar, dans le chapitre 3 du livre des Nombres. Il s'agit du dénombrement de la population des Israélites, et plus particulièrement des premiers-nés, à l'exception de la tribu de Lévi, qui sera d'ailleurs comptée à part. Et voilà la conclusion de ce passage, donc Nombre 3, versets 44 et suivants. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront, je suis l'Éternel. » Pour la rançon des 273 premiers-nés des fils d'Israël qui sont en surnombre par rapport aux Lévites, tu prendras 5 sicles par tête. Tu les prendras selon le sicle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour la rançon de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour la rançon de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les Lévites et il prit l'argent des premiers-nés des Israélites. 1365 sicles selon le sicle du sanctuaire. Moïse donna l'argent de la rançon à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Alors voilà un curieux calcul, n'est-ce pas? Les Lévites sont désignés comme un élément dans le rachat des Israélites. Ce qui manque doit être compensé, etc. Alors que comprendre un peu de ce savant calcul? Dans notre texte de l'Exode, le dénombrement se dit en hébreu « kitissa » et signifie « tu élèveras ». Et dans nos traductions, cela a été rendu d'ailleurs par le verbe « tu compteras ». Le dénombrement, en quelque sorte, élève, place au-dessus. D'où peut-être l'idée de l'interdire hors de tout cadre, afin que l'homme ne soit pas tenté de s'élever au-dessus de toute mesure. Les Lévites sont comme des intermédiaires dont l'héritage ou les fonctions sont de servir dans le tabernacle et porter l'offrande devant l'Éternel. Si l'on élargit peut-être l'image ainsi retenue, les sacrificateurs fils de Lévi représentent un groupe à part qui s'approche au plus près encore de Dieu et du lieu saint et de la présence divine. Ils agissent au nom du peuple et endossent le péché pour le peuple, livrant à Dieu la rançon sous la forme d'un animal immolé à leur place. Le souverain sacrificateur est quant à lui seul à représenter sa tribu et son clan devant le Seigneur. Il ne pourra s'approcher du lieu très saint, non sans apporter pour la rançon de sa vie le sang du bouc, lui-même supportant le péché du peuple et la rançon de celui-ci. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne manquera pas de rappeler l'importance de la rançon à payer pour expier notre péché. Et Yeshua lui-même portera au nom du peuple la rançon qui nous rachète et sera en quelque sorte lui-même le sacrifice expiatoire en compensation pour nos vies. L'offrande du demi-shekel en rançon pour les Israélites n'est rien d'autre que le rappel constant que la vie de chaque Israélite a été rachetée par Dieu au moyen du sacrifice de Pessah, de la Pâque. C'est ainsi que Dieu nous élève par le rachat de nos vies.
Alors on sait qu'il n'y a pas de loi donnée sans raison, sans motivation prophétique. La vie d'un Israélite était évidemment d'une valeur bien supérieure à un demi-shekel.
En effet, il paraîtrait d'ailleurs étrange que Dieu demande à chaque homme israélite une somme même dérisoire par laquelle il se rachèterait réellement lui-même, qui plus est sous peine de mort. Non, l'ordre divin vise à ancrer dans la conscience des Israélites que leur statut nouveau de peuple de Dieu ne tient pas à leur obéissance ou leur désobéissance au commandement, mais au rachat de leur personne lors de leur sortie d'Égypte. Ce rachat, c'est Dieu qui l'a accompli avant même d'avoir accepté et reçu la Torah et les commandements. Et ici, l'ordre des choses a son importance, une manière peut-être de souligner la primauté du rachat sur l'obéissance dans l'Alliance. Le rappel du demi-shekel chaque année était en quelque sorte une façon de conserver sa juste place devant le Seigneur. Le paiement de cette rançon était effectué peu avant Pessah, c'est-à-dire, c'était un grand symbole. Yeshua est celui qui donnera sa vie en rançon pour nous racheter. Et Matthieu 20, verset 28 nous le dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Et encore dans le psaume 49, verset 8, « Un homme ne peut libérer son frère ni donner à Dieu le prix de sa rançon. »
Notre émission touche à sa fin. On poursuivra dans 15 jours avec un autre texte de la Torah. Est-ce qu'on sait déjà lequel, Guy ?
En fait, on va rester dans la continuité de ce que nous venons de voir et nous aborderons directement la question de cet épisode du veau d'or qui passionne et qui interroge tant de gens.
Eh bien, dans ce cas, rendez-vous dans 15 jours. Au revoir.
Au revoir.
Merci Guy et merci Benjamin. Je vous rappelle, chers auditeurs, que les thèmes développés et les questions posées dans cette émission sont disponibles sur le site internet www.lebergerdisrael.org. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de la Torah expliquée.
C'était la Torah expliquée. Une émission qui vous a été présentée par le magazine Le Berger d'Israël.